voudrais ce matin vous parler de la paix profonde de Dieu, celle qu'il veut mettre dans votre cœur. On raconte qu'il y a quelques années, avant sa mort, Elisabeth Taylor, on se rappelle de cette actrice, elle avait effrayé souvent la chronique dans les journaux, dans les people, les magazines people, l'époque. Elle avait été citée dans une émission parce qu'elle disait « Dieu sait si j'ai essayé. J'ai essayé le succès, j'ai essayé les hommes, j'ai essayé la drogue, j'ai essayé l'alcool, je n'ai jamais trouvé la paix. » Et l'article continuait en déclarant que, alors qu'Elisabeth Taylor observait sa maman qui était toute proche de la mort, elle avait tristement dit « Peut-être que la mort finalement s'est-elle la paix. » Peut-être vraiment un dernier désespoir pour dire de telles paroles. Mais c'était la fin de la vie aussi d'Elisabeth Taylor, c'était sa manière de vivre. Et plutôt que de se tourner vers celui qui est la lumière, elle n'a pas vraiment choisi bonne voie, donc elle n'a jamais trouvé la paix. J'aimerais qu'on puisse se tourner vers le psaume 130. Et là, nous avons des belles paroles poétiques, et nous sommes dans la littérature poétique des psaumes. Le psaume 130 est très intéressant. C'est un psaume qui nous parle de notre position, finalement, en Dieu, lorsque nous réfugions en lui. C'est un des cantiques des deux lèvres, des montées. Et la parole de Dieu nous dit, du fond du gouffre, selon certaines versions, du fond de l'abîme, je fais appel, je t'invoque, je t'appelle à toi, éternel. Seigneur, écoute-moi ou écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à mes supplications. Si tu tenais compte de nos fautes éternelles auprès de toi, si tu tenais compte de nos fautes éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel de toute mon âme et je m'attends à sa promesse. Je compte sur le Seigneur plus que les gardes n'attendent le matin. Oui, plus que les gardes n'attendent le matin. Amen. Vous voyez, nous retrouvons nos sentinelles du début de l'année. On a parlé de sentinelles, que dis-tu de la nuit? Bien, nous parlons de sécurité, d'assurance que les gens avaient lorsque les sentinelles, les gardes de la nuit, les veilleurs de nuit, eh bien, veillaient sur leur sécurité en attendant le matin. Et ce psaume-là nous reparle des sentinelles en nous disant qu'elles attendent le matin et c'est pour elles un refuge, c'est pour elles une façon d'être rassurées aussi que d'attendre le matin, de savoir que le matin va venir. Mais le psalmiste est en train de dire ici que lui, il s'est confié à Dieu du sein du gouffre et il affirme et il proclame qu'il espérait plus en Dieu que dans les sentinelles de la nuit, les veilleurs de nuit. Et c'est vrai que Dieu est un surabri. Dieu est une forteresse, Dieu est une haute retraite pour nous. Donc il y a le foi, on le voit dans les psaumes. C'est bon de lire les psaumes, ça nous console, ça nous parle. Ça décrit les émotions d'hommes et de femmes qui ont vécu avant nous, mais c'était les mêmes émotions, écrites selon les circonstances. Et c'est pour ça que nous avons beaucoup à recevoir des psaumes. Et puis dans le psaume 131, c'est-à-dire le psaume suivant, au verset 1 et 2, il y a des paroles encore très édifiantes. Compter sur le Seigneur, c'est être rassuré plus que les gardes qui attendent le matin. Mais ici, le psalmiste nous dit « Éternel, je n'ai pas un cœur orgueilleux, des regards hautains, et je ne m'engage pas dans des projets trop grands et trop élevés pour moi. Au contraire, je suis calme et tranquille, comme un enfant sevré qui se trouve avec sa mère. Je suis comme un enfant sevré. » Vous voyez, en sorte d'écho, il y a dans le psaume 131 par rapport au psaume 130, eh bien, le psalmiste fait ici la preuve, la démonstration qu'il a découvert le secret de la paix. Évidemment, on le réalise que c'est par la connaissance de Dieu, l'intimité qu'il a avec Dieu, l'expérience particulière, quotidienne qu'il a avec Dieu, et bien qu'il a acquis cette connaissance qui lui permet d'être intime avec Dieu, et du coup, eh bien, de découvrir le calme et la sérénité qui découle d'une relation paisible avec le Seigneur. Et on peut ici l'image forte, celle d'un enfant sevré qui se trouve auprès de sa mère. Et cette image, cette illustration nous parle, eh bien, de rassasiement. Elle nous parle d'alimentation, parce que l'enfant sevré, il est rassasié de nourriture. Elle nous parle d'intimité, l'enfant avec sa mère, il est une intimité, c'est pour ça qu'elle conseille toujours plus l'allaitement lorsqu'il y a des bébés, naissent, parce que ça crée une intimité avec la mère. Et puis, il y a de l'assurance, il y a du repos pour l'enfant qui est auprès de sa mère. Un enfant qui est éloigné de sa mère est stressé, il se met à pleurer. Et nous savons aujourd'hui, après les expériences de Françoise Dolto, qu'il en est ainsi réellement. Mais quelle image forte le Seigneur emploie dans ce psaume ? Combien le Saint-Esprit a inspiré le psalmiste pour montrer que ce dont nous avons besoin, même en étant adultes, eh bien c'est de ce même rassasiement, de cette même activité, de cette même assurance, mais avec Dieu, en Christ pour nous qui sommes dans la nouvelle alliance. Et c'est beaucoup plus fort pour nous, puisque l'intimité, elle est avec le Père, avec le Fils, avec l'Esprit, qui sont venus résider en nous. Alors, il y a de nombreuses personnes, évidemment, qui recherchent la paix intérieure, et la parole de Dieu nous parle d'une vraie paix qui dépasse les circonstances de la vie, voire même qui les transcende. Il y a vraiment cette image est extraordinaire. L'enfant sevré qui est tout près de sa mère. Alors, ce matin, dans un premier point, comment pourrions-nous définir la paix? Certains diront que la paix, c'est l'absence de conflit. Eh bien, non, la paix, c'est pas l'absence de conflit. D'ailleurs, Jésus dira qu'il n'est pas venu forcément apporter la paix, mais parfois la division, le conflit entre ce qu'il y a entre la chair et l'esprit. On en avait parlé récemment, mais c'est le cas souvent dans notre famille. Quand on se convertit, moi, la première fois que j'ai parlé d'évangile à mon père, il a failli me verser la cocotte sur la tête. Sauf qu'il s'est dit, si je la verse sur lui, il n'aurait pas grand chose à manger à lui. Donc, du coup, il s'est rassuré et il a évité de faire ça. Tant mieux pour lui et tant mieux pour nous. Hein? Mais ce n'est pas l'absence de conflit, la paix. Ce n'est pas l'absence de difficulté. Tout ça fait partie de la vie. Et ça, pour qu'on se l'inscrive dans notre cœur et dans notre pensée, une bonne fois pour toutes, Jésus a dit qu'il ne nous a rien caché. Il n'a pas dit que nous aurions une vie avec des pétales de roses tous les jours qui vont tomber. Ça va vous faire tout doux. Non, il n'a pas dit « je vais me donner du chamana tous les jours ». Vous savez qu'il y a des gens qui font un évangile édulcoré, qui annoncent un évangile édulcoré, où on n'est que béni, il nous arrive que de bonnes choses, que les victoires, le pétale de rose qui tombe, pour certains il y aura même des plumes d'ange, la poussière des étoiles. Ça c'est du rêve. Jésus a dit « vous aurez des tribulations ». Persécution, c'est-à-dire du harcèlement, du harassement, des choses qui viendront comme des pressions sur vous. Et il a dit, prenez courage. Alors moi, j'ai vaincu pour vous. Il a vaincu pour nous. Avant que nous soyons nés, il a vécu, lui, ces choses, ces pressions. Il les a vaincues et il nous assure de sa victoire. Nous avons un Dieu compatissant, un Dieu qui a participé à la faiblesse humaine, qui la connaît et qui en a vaincu tous les aspects. Et de ce fait, il est le seul acte, le seul capable, le seul compétent, pourrait-on dire, pour nous aider dans nos faiblesses, pour nous aider dans nos détresses. Jésus, lui, a décrit donc la paix de façon différente. Dans l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 30, Jésus va dire, il fallait que je vous dise aussi cela pour que vous trouviez la paix en moi. Déjà, pour qu'il dise des choses, paroles, concrètes, réelles, ouais, vous allez avoir des difficultés, oui, vous allez avoir cela. Mais je vous dis ça pour que vous trouviez la paix, non pas ailleurs, simplement, uniquement au culte dimanche. Simplement que vous trouviez la paix dans, quand tout va bien, mais que vous trouviez la paix en moi. On pourrait être tenté de n'avoir la paix que le dimanche. C'est la grande tentation des chrétiens. C'est pour ça que peut-être quand nous devrions vous remémorer le chant des gitans. Le mardi, je prends sa paix, le mercredi, jeudi, etc. Parce que c'est toute la semaine qu'il faut vivre avec le Seigneur, être béni par lui, vivre dans sa bénédiction, et vaincre les difficultés par ce moyen-là, une vie quotidienne avec le Seigneur. Il fallait que je vous dise aussi cela pour que vous trouviez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions. C'est Jésus qui a dit ça. On pourrait pas en entendre ça. Le mec Jésus n'a jamais dit ça.
Mais dans le monde,
nous avons été placés, nous avons été laissés. Et où nous serons orphelins, puisqu'il a promis qu'il sera avec nous. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des affections. Mais courage, moi, quelle parole extraordinaire. La paix, c'est un thème majeur de la vie. Il paraît qu'elle apparaît plus de 80 fois dans la Bible, et au moins une fois dans chacun des 27 livres du Nouveau Testament. C'est l'importance de ce thème dans la parole de Dieu. On a besoin de la paix quand un être cher meurt. On a besoin de la paix de Dieu quand vient la maladie, la souffrance, quand viennent les divorces et séparations. On a besoin de la paix de Dieu quand viennent les problèmes financiers et qu'on est comme submergé. Nous avons besoin de la paix de Dieu. Quand un de nos rêves ne s'accomplit pas et lui s'arrive, c'est la réalité, eh bien, face à de telles circonstances, nous avons besoin de la paix de Dieu. Et Dieu est appelé le Dieu de paix. Et Jésus est identifié comme étant dans Ésaïe chapitre 9, verset 1 et 6, le prince de la paix qui a été promis 700 ans avant sa venue et qui est venu en tant que messie en Israël, on l'a rappelé il y a pas longtemps. Mais ce prince de paix promis, il est venu et il s'impose aujourd'hui à nous. Il nous invite à entrer dans sa paix et vraiment il se manifeste en tant que prince de paix et il nous promet sa paix. La paix n'est donc pas l'absence de conflit, mais c'est un état. C'est une condition, c'est une situation qu'on accepte. Et pour faire la note, c'est d'être en quelque sorte aguerri à toute épreuve par la paix de Dieu venant, espérons-nous. Alors la paix de Dieu, il y a d'abord la paix avec Dieu. Et la paix avec Dieu, elle découle de l'œuvre de la croix. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5, verset 1, l'apôtre Paul va dire, puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus. La paix avec Dieu vient d'abord de notre justification par la foi en Christ. La justification par la foi en Christ nous apporte la paix avec Dieu, en fait, elle nous réconcilie avec lui. Ésaïe 53, verset 5, il ne dira pas autre chose quand il dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Jésus a tout accompli. Il a satisfait à toutes les exigences de Dieu. Il nous a rendus justes en nous imputant sa justice, son innocence, puisqu'il a été fait péché pour nous, et qu'il est mort pour nous, et qu'ainsi il a subi la peine de notre péché, la condamnation de notre péché à notre place. Nous avons donc la paix avec Dieu, puisque nous sommes réconciliés avec le Père, ce qui veut dire plus de condamnation pour les élus, plus de problèmes de culpabilité. Dans l'œuvre accomplie au calvaire, à la croix, pour nos péchés, il n'y a plus de problème de culpabilité. C'est pour ça que nous avons la paix avec Dieu. Et avant d'avoir la paix de Dieu, il faut bien sûr avoir la paix avec Dieu. C'est important. La réconciliation opérée par Jésus-Christ. Le mur de séparation qui a été enlevé, le voile qui a été déchiré, et qui nous permet d'avoir communion avec Dieu. Et la paix de Dieu, ça va être de maintenir cette communion et de pouvoir vivre cette paix, de pouvoir en être pratiqué, de pouvoir en être à son bénéfice. Alors, avons-nous la paix de Dieu? Jésus va dire dans Jean chapitre 14, verset 27, « Je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés. »
Et n'ayez aucune crainte en votre cœur. C'est là la paix, fruit de l'esprit. D'ailleurs, que Dieu veut voir se manifester dans notre caractère, c'est-à-dire qu'il veut voir sa paix surnaturelle pour qu'elle nous caractérise. Le message, la voix ne va pas être très forte, la qualité ne va pas être très bonne parce que j'ai oublié de mettre le micro en marche. Voilà. Donc c'est là la paix, fruit de l'esprit, donc, qu'on a étudié récemment, que Dieu veut voir se manifester en nous, dans notre caractère, puisque le fruit de l'esprit représente le caractère que Dieu veut que nous ayons, qui est le caractère de Christ, bien entendu. Il veut voir donc cette paix surnaturelle nous caractériser. La paix, fruit de l'esprit. Et c'est cette paix qui est manifestée dans le psaume 131 que nous avons lu, avec cette image de l'enfant sevré auprès de sa mère. L'enfant qui est dans l'assurance, parce qu'il fait confiance à sa mère, et nous, nous sommes appelés à faire confiance à notre Père Céleste, de la même confiance et dans la même dépendance à la volonté de Dieu que cet enfant qui est sevré, qui est auprès de sa mère et qui dépend de la volonté de sa mère parce qu'il n'a pas encore l'âge d'exprimer tout seul la sienne et en tout cas de la vivre seul, alors il est dépendant. Et nous devons être dans cette dépendance, nous devons être dans cette confiance, dans cette assurance. Et c'est quelque chose qui s'inscrit progressivement, mais ça ne peut pas se faire sans la relation qu'il nous faut cultiver quotidiennement avec le Seigneur, dans sa présence, dans la prière. Sans quoi nous nous agitons, sans quoi nous sommes troublés. Mais nous ne devons pas nous laisser troubler, nous ne devons pas nous laisser envahir par la crainte et l'inquiétude. C'est contraire à ce que le Seigneur veut pour nous. Je crois que j'avais... Je vais citer un psaume après, mais qui va vraiment dans ce sens-là. Il nous faut savoir que cette paix, elle n'est pas fondée sur les circonstances. La paix n'est pas un état d'esprit. C'est pas être zen, comme disent les bouddhistes, mais c'est une condition de cœur. C'est une condition du caractère de Jésus en nous. C'est le fruit de l'esprit en nous, c'est un don de Dieu. C'est pas un état d'esprit qu'on aurait, nous, personnellement. Un jour, il y a un sportif de l'extrême, je ne sais plus quel était son nom, mais je crois que c'était un Australien, il s'est suicidé. C'était un gars qui avait remporté des tas de coupes, il avait remporté des championnats, enfin plein de prix, mais son entraîneur va révéler plus tard que cet homme-là lui avait souvent dit ne jamais, jamais, jamais s'être senti en paix, à quelques exceptions près, quand il s'était retrouvé avec ses enfants, là il se sentait en paix, ou bien quand il faisait du surf. Parce que là, il se trouvait d'un seul coup sur le surf, complètement dépendant de la grande vague qui venait. Et il disait que lorsqu'il était sur ces vagues-là, eh bien, il avait un plus puissant sentiment de paix que jamais il n'aurait pu avoir. Et à ce moment-là, tous les tracas le quittaient, tous les soucis, tout le stress, plus aucun problème ne lui importait. Il oubliait tout lorsqu'il était sur cette vague qui l'emportait. Et il avait toujours cherché la paix, et jamais il ne l'avait trouvée à part à ce moment-là. Mais cette illustration encore du surf et de cette vague qui emporte le surf nous parle de cette vague dans laquelle on peut se laisser aussi nous envahir, on peut se laisser eh bien, porter dans cette vague. Et la paix de Dieu, on va le voir, elle est comme un fleuve qui nous emporte, mais il nous faut vraiment accepter de tout lâcher, lâcher prise, et de laisser le Seigneur faire, et de le laisser inscrire cette paix comme avec un burin dans notre cœur, pour que vraiment elle y soit bien accrochée, et qu'elle puisse arbitrer nos sentiments, parce que c'est nos sentiments qui vont produire évidemment bien des choses, on va le voir. Donc c'est une paix qui n'est pas fondée sur les circonstances, mais c'est une paix surnaturelle, tout simplement parce que c'est la paix de Christ. Alors on a cette belle exhortation que vous connaissez bien dans Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7, où l'apôtre Paul dira « Ne vous mettez en souci pour rien, rien, mais en toute chose. » Vous voyez, c'est des absolus, c'est des superlatifs quelque part. Pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes, en lui disant aussi votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. C'est important. Et l'apôtre Paul touche ici au poste de commandement central, le PC, nos pensées. C'est ça qui nous trompe, nos pensées nous trompent, nos pensées, elles s'envolent, elles paniquent, nos pensées. Mais se confier en Dieu, espérer en lui, comme dit le psalmiste, c'est aussi prier, c'est lui adresser nos requêtes. Et la Bible dit, eh bien que si on prend l'habitude, en quelque sorte, de faire cela, si cela devient notre habitude, si cela devient un bon pli, que de nous confier en Dieu en lui exposant nos requêtes, la paix surnaturelle qu'il nous a promise va venir nous envahir. Elle va garder nos cœurs, elle va garder nos pensées protégées par la pensée du Seigneur Jésus-Christ et non pas les pensées humaines, les pensées charnelles, les pensées de panique et de crainte qui ne manquent pas de nous envahir à ces moments-là. C'est une paix surnaturelle. Elle dépasse, elle surpasse tout ce qu'on peut concevoir. Elle garde nos pensées et nos cœurs sous sa protection. Luther, il a dit cette petite phrase, toute simple, il a dit « Priez et laissez Dieu s'inquiéter ». Il avait beaucoup d'humour d'ailleurs, je pourrais vous en raconter une autre de ces citations intéressantes, mais je la garderai pour une autre fois. Luther a dit « Priez et laissez Dieu s'inquiéter ». Mais c'est exactement cela, c'est à Dieu de s'inquiéter de notre sort, nous sommes ses enfants. Donc nous, nous devons être comme un enfant sevré, mais devant notre Père Céleste, qui est aussi une mère, parce qu'il y a une paternité et il y a une maternité de Dieu. Hein. C'est Dieu qui a créé les mères, et donc il est à la fois père et mère pour nous. Et ça, c'est quelque chose qui est un facteur de guérison pour notre être intérieur, de savoir que Dieu est père et mère. La paternité et la maternité de Dieu. Le Père nous cajole, il nous porte sur ses genoux, il nous lance même, de manière à ce que nous retombions dans ses bras. C'est une image dans Ésaïe 66 qui est importante et qui peut permettre à des hommes, des femmes d'être guéris et de trouver leur identité dans le Seigneur, en Jésus-Christ. La paix en grec, c'est eirene. C'est pour ça qu'on parle d'une attitude irénique. Ça veut dire une attitude paisible. Ça, c'est un peu dans un langage un peu fourni, vous allez me dire. Mais le mot grec parle de tranquillité d'esprit en relation avec l'intimité avec Dieu, comme cette intimité de l'enfant sevré avec la mère. Donc on retrouve vraiment cette pensée de tranquillité d'esprit, d'assurance, de dépendance. Et la forme verbale qui est employée en grec pour le mot paix signifie tenir ensemble. Tenir ensemble. Et c'est ce qui se passe quand on n'est pas effrayé parce qu'on sait que Dieu garde le contrôle, qu'il a le contrôle. Donc il tient tout ensemble, tout coordonné, tout cohérent. Et on sait que tout ce qui survient autour de nous, eh bien, est contrôlé par Dieu. Notre esprit alors se trouve tranquille, notre cœur se retrouve au large. Vous voyez, tenir ensemble. Certains disent même que c'est arbitrer. Et tenir ensemble une équipe, il faut un arbitre. Donc ce qui tient ensemble les deux équipes, c'est l'arbitre. Et la paix de Dieu, c'est un arbitre. Et l'arbitre dans nos sentiments, et l'arbitre dans notre cœur, et l'arbitre face aux pensées qui s'opposent les unes aux autres, les pensées qui sont comme la mer agitée, vous voyez. Et c'est cette mer agitée, alors d'un côté il y a celles qui sont un peu plus paisibles et puis les autres qui viennent s'opposer, bien la paix de Dieu elle vient arbitrer tout ça, elle vient mettre de l'ordre, elle vient tenir tout cela ensemble et coordonner tout cela, afin que le PC, le poste de commandement que sont nos pensées, puisse eh bien être équilibré. La paix n'a rien à voir donc avec les circonstances, elle n'a rien à voir avec les sentiments non plus. La paix surnaturelle de Dieu, elle se vit même au sein de troubles et des difficultés. On connaît ce chant des ailes de la foi, quel repos, quel céleste repos, je ne sais pas si vous le connaissez, mais on sait que cet homme qui a composé cela venait de perdre sa famille. Et alors qu'il était encore dans la mer en train d'être naufragé, ce cantique est monté dans son cœur, un cantique qui a béni des multitudes de gens lors des enterrements, lors même du culte. Quel repos, quel céleste repos, on peut chanter ce chant à tout moment. C'est extraordinaire ce chant qui a été composé par cet homme dans des circonstances totalement difficiles où on aurait pu croire que rien ne pouvait être maîtrisé. Et pourtant, la maîtrise était là et cet homme, inspiré par le Saint-Esprit, malgré sa tristesse, malgré les circonstances qui venaient un peu comme Job l'assaillir, a eu un seul mot, la gloire de Dieu. Et cette gloire, elle est montée à travers un cantique extraordinaire. Le psaume 46, c'est celui-là que je voulais apporter aussi, vient illustrer formidablement la paix de Dieu face à nos sentiments qui commencent à s'exciter. La Bible dit « Dieu est pour nous un rempart. Il est un refuge, un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Aussi, nous ne craignons rien quand la terre est secouée. » Et il y a des frères et sœurs qui ont vécu dans des terres un peu plus inhospitalières que la France, où il y a des tremblements de terre souvent, et qui ont vécu cette tranquillité d'esprit lorsque des séismes terribles, lorsque des volcans terribles eh bien, entraient en éruption. Au Salvador, le réveil de ce petit pays, cette île, je crois, même du Salvador, vient du fait que lorsque le volcan est entré en éruption, qu'il y a eu un grand séisme, les gens eh bien, se sont convertis. L'éruption du volcan a provoqué un grand réveil. Parce que les gens étaient dans le dénuement le plus total, ils n'avaient plus rien. Et ils ont dû entrer dans la dépendance de Dieu. Il y a de grandes églises aujourd'hui au Salvador, et c'est dû à ce réveil dans les années 80 lorsqu'il y a eu un séisme. Dieu est pour nous un rempart, il est un refuge, un secours, toujours offert lorsque survient la détresse. Aussi, nous ne craignons rien quand la terre est secouée, quand les montagnes s'effondrent, basculant au fond des mers, quand grondant et bouillonnant, les flots des mers se soulèvent et ébranlent les montagnes. Il est un cours d'eau. Là, on marque une pause. Il est un cours d'eau dont les bras réjouissent la cité de Dieu qui est la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu réside au milieu d'elle. Elle n'est pas ébranlée car Dieu vient à son secours dès le point du jour. Des nations s'agitent et des royaumes s'effondrent. La voix de Dieu retentit et la terre se dissout. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Amen. Voilà la paix de Dieu qui vient arbitrer au sein même d'un conflit bouillonnant de sentiments qui sont là et qui pourraient eh bien entraîner une panique qui peut même mener à la mort, un stress qui peut mener à la mort, parce qu'il y a des gens qui, à cause du stress, sont morts. Et c'est la volonté de Jésus qu'on garde sa paix et qu'on soit au milieu des circonstances comme lui l'était. Rappelez-vous que Jésus dormait dans la barque lorsque la mer était agitée, la mer de Galilée, lorsque celle-ci était agitée, et que les disciples, eux, tout de suite, eh bien, ils ont eu leurs sentiments qui ont paniqué, dans leurs pensées se sont entrechoquées. Mais que fait le maître? Nous périssons, on va périr, et lui, il dort. Ils étaient apeurés, ils étaient saisis par l'inquiétude, leurs pensées s'agitaient de tous les côtés, et Jésus dormait. Lui qui ne sommeille ni ne dort, Jésus dormait. Alléluia! Parce que Jésus vivait dans le plan de Dieu, et il était confiant dans son Père Céleste, et il était en train d'instruire à travers cela ses disciples, et il nous instruit encore aujourd'hui, parce que lui, le Fils de l'homme, dormait, parce qu'il faisait confiance dans le Père Céleste. Et c'est cette même confiance, cette même foi, cette même dépendance qu'il veut nous enseigner, et il veut nous communiquer ce qu'est la vraie paix, et il veut que nous soyons remplis de cette paix qui était la sienne lorsqu'il dormait dans la barque. Il veut nous communiquer cela, il veut nous la donner, comme il a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Un épisode qui était là pour enseigner cette réalité que lorsque Jésus est dans notre barque, point n'est besoin eh bien, de vivre dans l'inquiétude, dans l'angoisse, dans le stress, dans l'agitation, puisqu'il est là et qu'il est au contrôle de toutes choses et que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. L'apôtre Paul lui-même ayant fait cette expérience extraordinaire de voir les circonstances s'aligner pour qu'elles fassent la volonté de Dieu. D'où le peu d'intérêt de l'inquiétude. Je pense à ce film il y a quelques années, je ne sais pas si vous l'avez vu, je ne sais plus le titre. C'était l'histoire d'un espion russe qui a dû vivre au moins 40 ou 50 ans en Amérique. Puis après, on est venu le rechercher. Hélas, plus personne n'avait confiance en lui. D'un côté, les Américains le prenaient un peu comme un des leurs, puis en même temps, ne se méfiaient quand même, parce que c'était un espion soviétique. Et en même temps, les Soviétiques se méfiaient de lui parce qu'ils avaient peur qu'il ait été contaminé par l'Amérique après 50 ans de vie en Amérique. Et alors, il avait un avocat américain qui s'occupait de lui. Et cet homme était tranquille avec son chapeau et tout. Et à chaque fois, l'avocat lui disait, plusieurs fois dans le film, on voit, « Mais vous n'êtes pas inquiet ? Vous n'êtes pas inquiet ? Ça ne vous angoisse pas ?» Et puis l'espion répondait, bah, « Ça me servirait à quoi ?» Vous voyez ? Et quelque part, ça devrait être l'image du chrétien. S'inquiéter, ça servirait à quoi ? Jésus l'a dit. Jésus l'a dit, le lendemain s'inquiétera de lui-même. Ça ne sert à rien de s'inquiéter. À quoi servirait un homme de s'inquiéter s'il est dans la main de Dieu ? C'est un manque de confiance, c'est un manque de foi. Et nous avons besoin, et Dieu a besoin de notre confiance. Nous avons besoin aussi, pour notre bien-être à nous, de faire confiance au Seigneur et de croire qu'il est vraiment celui qui est aux manettes, celui qui contrôle toute la surface de la terre, qui contrôle tout l'univers. Comment ne contrôlerait-il pas ma vie ? Je pense aussi à des fois quelqu'un qui cherche une direction, la direction de Dieu pour sa vie. Et puis, souvent, vous avez une pensée qui vient, ouais, il faut que finalement, je vais prendre ce choix-là. Mais c'est un choix qui semble s'imposer à vous. C'est un choix qui vient comme une pression. C'est un choix qui vient même avec de la précipitation, mais il y a toujours des doutes en vous. Ça, c'est jamais la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, elle vient quand nous avons la paix. Et quand Dieu nous inscrit dans sa volonté, il nous donne en même temps sa paix. Et une des manières de reconnaître la volonté de Dieu pour notre vie, c'est quand nous sommes en paix. S'il y a une agitation, s'il y a une sorte de pression qui nous dit « fais ça vite, il y a urgence », ça ne vient pas de Dieu. L'urgence ne vient jamais de Dieu. Dieu n'est jamais pressé. D'ailleurs, vous le remarquez avec Lazare, Lazare est mort. Hein. Il n'était pas mort avant qu'on dise à Jésus « va voir ton ami, il est malade ». Mais Jésus, il ne s'est pas pressé. Hein. Il était dans le plan de Dieu, dans le timing de Dieu. Et il avait d'autres choses à faire. Hein. La mission qu'il accomplissait sur son chemin, il y avait des malades à guérir. Voilà, il a tardé. Et d'ailleurs, je crois que c'est Marthe qui lui a reproché « si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort ». C'est une sorte de foi, mais en même temps une foi qui limite Dieu. Puisque finalement, Jésus est venu et Lazare est ressuscité. Hein ? Mais Jésus était dans le timing de Dieu. Et nous ne devons pas nous laisser agiter par le diable qui voudrait des fois que nous prenions la volonté de Dieu pour la sienne et pour la nôtre aussi, et qu'on prenne finalement des vessies pour des lanternes, parce que c'est un peu ça. Et l'agitation n'a jamais rien donné. La précipitation n'a jamais rien donné de bon. La paix de Dieu vient avec celui qui s'inscrit dans sa volonté. Et si vous l'êtes dans la volonté de Dieu, vous sentirez la paix de Dieu vous accompagner. Le contraire, l'agitation, l'inquiétude, la pression, la précipitation ne viennent pas du Seigneur. Parlons aussi de la paix et de l'accusateur des frères, parce que ça, c'est un problème qui revient avec tous les chrétiens. Les entretiens qu'on peut avoir ici dans cette salle tournent beaucoup autour de ça, plus que d'autres choses. Les gens se culpabilisent. Nous avons parlé de la Sainte Cène tout à l'heure, et c'est vrai que le passage que notre frère Jean a exposé pourrait inquiéter certains. Évidemment, il a aussi expliqué d'autres choses pour compléter le passage. Il est bien sage, il ne l'a pas asséné comme cela, évidemment. Mais beaucoup de chrétiens ici seraient tentés de dire « Je ne prends pas la Sainte Cène parce qu'au fond, je crains Dieu, oulala, je n'ai pas été à la hauteur. » Mais ce n'est pas ça que Dieu nous demande. Dieu nous demande d'abord de nous examiner. Si nous avons péché, de nous repentir. Mais ce que Dieu regarde au fond de nous, ce sont les dispositions de notre cœur. Et on a beau avoir trébuché, on a beau avoir fait de travers ou même péché, ce que Dieu regarde sont les dispositions du cœur. Et si depuis le début de la semaine, le cœur, il est disposé à se repentir, Dieu l'a vu. Et c'est le principe du fils prodigue qui a cela dans le cœur. Mais quand il arrive vers le père, il le laisse même pas parler, il l'emmène avec lui et il lui dit « Viens, moi j'ai un festin pour toi, j'ai déjà préparé tout ça, je suis tellement dans une telle joie de te voir revenir ». Et il n'a même pas le temps de dire sa repentance parce que le Père l'a vu et Dieu voit notre repentance parce qu'il voit les dispositions de notre cœur. Et c'est ce qui est important. Et je crois que le diable, il vient dans sa fonction de procureur accusateur et il nous culpabilise. Il nous dit qu'on ne vaut rien, il nous dit que nous ne sommes pas dignes, mais ce n'est pas le langage de Dieu ça, c'est le langage du diable. Il dit que nous ne sommes que des moins que rien. Puis s'il peut même nous shooter dedans pour en rajouter et puis nous faire plonger plus dans la poussière, il va le faire. Et il ne nous apprend rien en plus. Qu'est-ce que le diable nous apprend en nous disant qu'on est moins que rien, qu'on est des pécheurs, etc. Il ne nous apprend rien, on le sait ça. Vous avez besoin du diable pour vous le dire. Si c'était le cas, ça voudrait dire qu'on serait orgueilleux, on ne connaît pas notre péché. Je n'ai pas besoin du diable pour me dire que je suis un pécheur. Il ne m'apprend rien s'il me le dit. Nous sommes des pécheurs, c'est vrai. Mais monsieur l'accusateur, dois-je rétorquer, je suis un pécheur. Mais Jésus est venu pour me sauver par grâce. Voilà ce que je dois répondre. Et c'est aussi le principe de la Sainte Cène. Et si je reconnais ça dans mon examen de conscience, que Jésus est mort pour moi et qu'il m'a sauvé par grâce, le procureur, poup, il a perdu un des éléments de son accusation, un des chefs d'accusation. Et si je lui dis, monsieur le procureur, je trébuche, c'est vrai, je ne suis pas toujours à la gloire de Dieu, mais Dieu le sait, et moi je le sais, mais comme le fils prodigue, mon père veille. Et il attend que je cours vers lui. Repentant, il connaît les dispositions de mon cœur, il sait quand mon cœur il est contrit, et il vient pour m'embrasser, et il vient pour dresser une table en face de mes adversaires dans le cadre d'un festin qu'il a organisé pour communier avec moi. Alors maintenant, bouche bée, hein, l'accusateur. Et puis après, je peux encore en rajouter une tartine. Oui, monsieur le procureur, l'accusateur, je suis un pécheur, mais je suis aussi un disciple de Jésus. Et j'ai donc le devoir de me souvenir de mon maître et de communier à la Sainte Cène et affirmer à travers la Sainte Cène que Jésus m'a rendu juste aux yeux du Père. On l'a chanté blanc, plus blanc que la neige. Ah, c'est l'innocence de Jésus qui est imputée à notre vie, imaginez. Il a versé son sang pour expier mes péchés, monsieur le procureur. Alors oui, je suis pécheur, oui, je suis moins que rien, mais grâce à lui, je suis quelqu'un. Grâce à lui, j'ai une identité. Grâce à lui, eh bien, je suis sauvé, je suis pardonné, je suis justifié. Et la Bible dit, je suis même glorifié, parce que la gloire de Dieu habite en moi à travers le Saint-Esprit. Et vous lui placardez le sang de l'agneau. S'il ne connaît pas le message de la croix, il faut lui annoncer. Hein. Ce n'est pas évangéliser le diable, c'est juste lui rappeler une réalité, c'est qu'il a été vaincu. Et que le sang de l'agneau, c'est ma victoire en tant que pécheur. Alors c'est par le sang de l'agneau qu'ils l'ont vaincu et par la parole de leur témoignage. Et j'aimerais vraiment qu'on arrive à cette maturité qui fait que chaque chrétien ne se laisse plus accuser. En dehors de l'examen qu'on doit tous faire, hein, Jean il a totalement raison, hein, je ne suis pas en train de contredire l'enseignement de Jean, mais je suis en train de contredire l'enseignement du diable qui accuse mes frères et sœurs, et ça on en a assez de ces accusations-là, on en a assez de voir des chrétiens être chétifs, être raplapla, parce qu'ils sont harassés par ces accusations-là, harassés par des accusations, comme des flèches qui viennent là constamment et qui empêchent chacun de s'épanouir en Christ. Imaginez bien que notre Père Céleste, il n'est pas comme ça, il n'est pas constamment en train de dire « Oh là là, cet enfant-là, c'est un enfant illégitime ». Non, nous ne sommes plus des enfants illégitimes, dit la parole, mais nous sommes des enfants de Dieu. Et pour revenir au grand réformateur Luther, il disait « Quand Satan me dit que je suis un pécheur, il me console infiniment, puisque le Christ est mort pour les pécheurs. » Il avait beaucoup d'humour et en même temps beaucoup de bon sens. Il savait retourner les paroles. Et c'est extraordinaire. Moi, j'aime bien lire les citations des réformateurs parce que c'est quand même ceux qui nous ont précédés dans la foi. Ils avaient une certaine sagesse, ils ont acquis une certaine connaissance. Alors, quand dites à l'adversaire, quand tu me dis que je suis un pécheur, tu me consoles infiniment, puisque le Christ est mort pour les pécheurs. Et vous pouvez même sourire parce que vous avez le droit. Amen. Parlons maintenant de la paix qui est comme un fleuve. C'est une paix profonde dont on parle. Et c'est celle-là que Dieu veut nous communiquer. Dans l'évangile du Nouveau Testament, mais c'est tout à fait ça, Ésaïe 26, versets 3 et 4, l'évangéliste de l'Ancien Testament, il dira « À celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures une paix parfaite, parce qu'il se confie en toi. Placez votre confiance toujours en l'Éternel, car l'Éternel est le rocher de toute éternité. » Une vie de confiance constante. Persévérance dans la confiance. Une vie qui s'appuie sur le rocher des siècles. Il n'y a pas mieux parce que c'est le rocher des siècles, celui qui demeure inaltérable, immuable. C'est un des attributs de Dieu, l'immuabilité, l'immutabilité. Il est immuable, il ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, dit Hébreux chapitre 13, verset 8. C'est l'évangéliste Moody qui disait « L'arbre de la paix » plonge ses racines dans les fentes du rocher des siècles. C'était des poètes, les gars. On a beaucoup à apprendre, nous. L'arbre de la paix plonge ses racines dans les fentes du rocher des siècles. Plongeons nos racines de paix dans celui qui est le prince de la paix et qui est en même temps le rocher des siècles, le rocher éternel, celui qui ne change jamais, qui est invariable. Dans Ésaïe 66, verset 10, Dieu dit qu'il veut faire affluer sur Jérusalem sa paix comme un fleuve. Et c'est bien ainsi que cette paix surnaturelle de Dieu ou de Jésus peut être caractérisée, une paix comme un fleuve. Elle est comme un fleuve parce qu'on peut être submergé par cette paix, ou bien on peut en goûter les profondeurs. Cette paix profonde de Dieu, cette paix, elle est profonde. Cette paix, elle doit nous submerger. Et pour cela, il n'y a qu'une habitude à prendre, et c'est celle qui est revenue, ce terme qui est revenu constamment, que ce soit dans les psaumes, que ce soit dans les textes que nous avons parcourus ce matin, se confier en Dieu. Se confier en Dieu qui est l'abri sûr, le refuge, la haute retraite. Et vraiment garder à l'image cette pensée de la barque où Jésus dormait. Et devenons comme Jésus des hommes et des femmes qui dorment quand l'adversaire rugit. Des hommes et des femmes qui dorment dans les circonstances les plus paniquantes. Et nous verrons la différence. Ça viendra évidemment de par l'Esprit de Dieu, ça viendra à travers son action, mais il faut nous prêter à son action, il faut coopérer, il faut être ouvrier avec Dieu dans ces choses-là, il faut communier avec le Seigneur, et de cette intimité va découler une grande paix, une profonde paix. Il y a de cela quelques années, alors que je me trouvais en Afrique, j'ai rencontré au moment du départ un chrétien, un fermier du Midwest, un Américain avec bien l'accent de là-bas. Hein. Et il me disait qu'il avait perdu son épouse, mais que ça avait été un moment de paix extraordinaire. La paix du ciel était descendue sur le lit de maladie de cette femme. Et il a vu la gloire de Dieu dans, dans le visage de sa épouse, et il m'a dit, je n'ai jamais pu pleurer mon épouse, parce qu'en fait, elle est partie dans la gloire, et c'était une telle joie pour elle, que c'est devenu une telle joie pour moi aussi. Et alors, ma vie, c'était de dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse, maintenant que mon épouse n'est plus là? Et il est devenu un Gédéon. On va bientôt recevoir les Gédéons. Peut-être ça serait une histoire à raconter à ce moment-là, pourquoi pas, mais ce frère, vous vous rendez compte, tout seul, il a parcouru le Burundi pour aller distribuer dans les hôtels, dans les institutions, les hôpitaux, etc., les petits Nouveaux Testaments chez Léon. Une nouvelle vie de service à la gloire de Dieu. Il a quitté sa ferme, il a mis des ouvriers, enfin il a mis ça en gérance, et il est parti servir Dieu. Parce qu'il n'avait plus d'attache, ses enfants étaient grands, et donc il n'avait plus d'attache qui l'empêchait de servir. Alors il est parti. Une deuxième carrière, mais pour le Seigneur. C'est extraordinaire. Et je ne peux m'empêcher de me rappeler la joie et la paix qui animaient cet homme. On fait des rencontres du troisième type parfois. Je souhaite vraiment que chacun d'entre nous goûte cette paix qui nous est donnée par Jésus. Celui qui était attendu, celui qui était annoncé comme un prince de paix. Ce n'est pas pour rien. Il n'y a aucune parole dans la Bible qui est écrite pour rien. Tout a une raison d'être, tout a un sens, tout a une finalité. Et c'est lui qui donne la paix comme un fleuve. Et dans ma conclusion, je dirais ce texte d'Ésaïe 48, verset 18, retenez-le bien, la référence. « Ah, si tu avais été attentif à mes ordres !» Ta paix serait comme un fleuve et ta justice comme les flots de la mer. Encore des paroles poétiques, des images, toujours avec un rapport avec le fleuve, les flots de la mer. Mais être attentif à Dieu, être attentif à sa parole, être attentif à ses ordres. Quand Dieu nous invite, même par prophétie, à entrer dans son repos, à entrer dans sa communion, ne négligeons pas ce qui est dit. Ce n'est pas contraire à la parole, que je sache donc. Ne négligeons jamais les invitations que Dieu nous donne. Si tu avais été attentif, ta paix serait. Ça serait bien s'il n'y avait pas le conditionnel, voyez-vous. Si le Seigneur pouvait dire, « Oh, aujourd'hui, ta paix, elle est comme un fleuve. Ta justice, elle est comme les flots de la mer. » Mais c'est lié, parce qu'on a vu hein, tout de suite la paix et la justice. Si votre paix, elle est comme un fleuve, vous allez pouvoir dire à l'accusateur, « Ma justice est comme les flots de la mer. » Ça va ensemble. Nous n'avons pas cette paix si nous n'avons pas le sentiment de cette justice que nous avons revêtue en Christ. Nous avons revêtu la justice de Christ, nous avons revêtu Christ qui est juste, et sa justice nous a été imputée, de sorte qu'aujourd'hui nous sommes considérés comme justes, comme innocents des péchés dont on nous accuse. Et pourtant nous sommes pécheurs, sommes condamnables, mais aux yeux de Dieu nous sommes déclarés comme innocents. C'est extraordinaire. Mais il faut que cette paix nous habite, il faut que cette réalité nous rejoigne, il faut que la paix de Dieu arbitre entre ces deux tendances qui viennent. « Ah ouais, mais est-ce que c'est bien pour moi ?» Et puis la Bible qui dit « C'est pour toi ?» Il faut que ces deux tendances soient réunies, qu'elles soient tenues ensemble par la paix de Dieu. Tout sera cohérent alors dans notre esprit, dans notre cœur, et on va pouvoir avancer beaucoup plus loin. C'est dommage qu'année après année, des chrétiens soient sous le flot des accusations de l'ennemi sans pouvoir réagir et soient dans le même état de désespoir, dans le même état de... Il faut apprendre à lutter, il faut apprendre à se battre. C'est un peu ici, ce matin, les prédicateurs sont comme des maîtres de guerre. On est là pour vous équiper, on est là pour vous armer, ce qu'on a dû apprendre aussi. Et on est un peu comme ce maître de guerre là que je voyais avec Clint Eastwood dans un... Et qui dit, allez maintenant, hein, vous allez faire ci, vous allez faire ça. Mais c'est un peu ça, armez-vous. Il y a même des cantiques qui disent, arme-toi. Dans les ailes de la foi, c'est peut-être un recueil qu'on utilise beaucoup moins auparavant. Mais vous savez, moi j'ai un ami... Un frère qui compose des chants de manière un peu... Je ne sais plus comment c'est le style, mais c'est un style moderne. Ce n'est pas tout à fait le rap, c'est autre chose. Et il reprend des ailes de la foi. Comment ? Le slam, voilà. Ah, si un jour il venait, Brother Charles, on l'appelle. Ouais, ce n'est pas Jean-Charles, c'est Brother Charles. Eh bien, ce frère, très profond d'ailleurs, hein, dans la parole, c'est un prédicateur aussi, eh bien, il a revisité les ailes de la foi, mais avec le slam. Et je peux vous dire que ça donne quelque chose. On a été encouragés par ces chants. C'est spécial au début, on se dit, oulala, où il va? Mais quand vous voyez, au bout de quelques instants, vous êtes vite captivé, capturé par, par ce qu'il dit et ce qu'il fait. Et c'est vraiment important. Ces cantiques étaient des cantiques qui vraiment armaient les chrétiens, avec des paroles profondes. Et avant de terminer, justement, je vous en ai réservé un, que je vais vous réciter finalement, enfin, pas par cœur, parce que c'est difficile maintenant. Mais comme un fleuve immense est la paix de Dieu. Parfaite, elle avance, vainqueur en tout lieu. Parfaite, elle augmente constamment son cours. Parfaite, sa pente s'abaisse toujours. Fondée sur Dieu même, nos cœurs à jamais ont pour bien suprême sa parfaite paix. Sous ta main divine se brise, ô mon roi, toute arme ennemie faite contre moi. Rien ne peut me nuire, ni troubler mon cœur. Tu veux me conduire, tu seras vainqueur. Et le refrain dit encore, fondé sur Dieu même, nos cœurs à jamais ont pour bien suprême sa parfaite paix. Océan de gloire, paix de mon sauveur, gage de victoire, trésor de bonheur, ta grâce infinie coulant nuit et jour, inonde ma vie de ton grand amour. Oui, fondé sur Dieu même, nos cœurs à jamais ont pour bien suprême sa parfaite paix. Océan de gloire, paix de mon sauveur, gage de victoire, trésor de bonheur, ta grâce infinie coulant nuit et jour, inonde ma nuit de ton grand amour. Selon ta promesse, ô Jésus mon roi, je trouve sans cesse paix parfaite en toi. Vous la connaissez, non ? Comme un fleuve immense est la paix de Dieu. Parfaite est l'avance, vainqueur en tout lieu. Parfaite elle augmente, constamment son cours. Parfaite sa pente, s'abaisse toujours. Voilà, c'est un peu l'air. Hein ? Eh bien, on pourra certainement le chanter hein, un jour. Ce n'est pas les partitions qui manquent à ce sujet-là. Mais voilà, moi, mon désir, c'est que chacun goûte à cette paix. C'est d'abord le désir de Dieu, hein, avant d'être le mien. Et vraiment qu'on ne soit plus sous le flot de ces accusations-là. Alors, vraiment, communiquons cela même autour de nous. Ces paroles-là, on peut exhorter les autres chrétiens, hein, quand on les a entendus, à rentrer dedans. Mais c'est très, très important. Voilà.